Matthieu. Et on s'en va dans Matthieu 18. On va lire une parabole tellement riche en leçons et on va squeezer un peu le citron pour en tirer là toutes les vérités qu'on peut avoir, pas toutes là, parce que c'est tellement riche, mais disons quelques vérités. Alors, on va avoir ici la leçon directement des lèvres de notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 18, c'est lui qui parle. Y a-t-il ici, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, qu'une version de Bible avec parole de Christ en rouge? Toi aussi? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ma première Bible que j'ai eue, c'était ça, puis ça m'aidait. Ah, OK, c'est Jésus qui parle. Mike m'avait donné une Bible. Elle était comme ça, sa Bible, c'est une Louis II, 1910, là. Ouais. Genre pas cher à la librairie chrétienne, parce qu'il était pauvre, on était pas mal pauvre, mais hey, j'étais content, j'avais ma Bible. Puis... Amen. Donc Jésus qui dit alors, ben là, c'est pas Jésus qui va parler tout de suite, là. Parce que là, c'est Pierre qui parle, mais moi, Jésus va donner sa parabole. Alors, Pierre, ça... j'ai étudié le verset?
Non.
Ah, 21. Écoutez quand je parle pas. Écoutez quand je me trompe. Alors, Pierre s'approcha de lui. Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Je pense qu'il se trouvait généreux. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Qui devait, 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant en terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant en terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Exactement ce que lui avait dit auparavant. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est le titre du message, pardonner de tout son cœur. D'abord, j'ai fait remarquer ce matin que au verset 34, j'ai référé, on n'a pas lu le verset, mais je parlais d'être livré au bourreau. C'est un puissant, ici, c'est une image du tourment auquel, puis on va y revenir dans un instant, là, mais on a une image du tourment auquel quelqu'un est livré par Dieu lorsqu'il refuse de pardonner. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais quand on ne pardonne pas, on résiste à Dieu, parce que Dieu nous ordonne de pardonner. Donc, on devient misérable. Et aussi, au verset 35, c'est le titre du message. Ça dit ici, Jésus, là, ça dit que le pardon, là, ça dit pas juste en apparence, pour bien paraître, une demi-mesure, mais de tout cœur. Et vous avez trouvé, c'est ça, un matin, j'avais ça un peu dans le cœur, fait que je vous répète encore des choses à laquelle j'ai fait allusion ce matin, mais ça nous dit, je vais vous lire le passage au complet, dans 2 Corinthiens 2, 10 et 11, ça dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Il n'y a rien qui ne donne l'occasion à Satan dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, que lorsque nous ne pardonnons pas. Ce n'est pas la seule chose. La Bible nous dit aussi que la colère lui donne accès. Et on pourrait aussi mettre une panoplie d'autres choses. Mais si ces deux choses-là, et dont le pardon, sont données en exemple, ça veut dire que c'est d'une importance spéciale. Et rien n'est aussi destructeur pour une personne, un couple, une famille et une église que lorsqu'on ne pardonne pas. Et ce dessein de Satan à l'égard de ceux qui ne pardonnent pas, c'est pour bloquer, ou si vous voulez, pour court-circuiter l'œuvre de la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on ne s'humilie pas. Et donc, Dieu nous résiste. C'est ça le problème. Et savez-vous, j'avais vu dans le Nouveau Testament, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Savez-vous que c'est une citation des Proverbes, mais qu'il y a une différence quand même notable. Ça dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Donc, pour orgueilleux, dans l'Ancien Testament, ça nous dit les moqueurs. Les moqueurs, c'est quoi? Dans les Proverbes, moqueur, le terme moqueur, ça réfère à ceux qui sont dans un état d'endurcissement spirituel. Tu sais, t'as le simple, l'insensé, puis le moqueur. C'est le pire état spirituel qui est décrit dans le livre des Proverbes. Tu sais, le simple, il est naïf, il se fait avoir, il se fait avoir, mais aussi, tu sais, il manque de crainte de l'Éternel, fait que ça va pas bien pour lui. L'insensé, c'est une coche plus loin, il s'avance dans sa folie. Mais le moqueur est rendu endurci puis dit « Je veux rien savoir. » Et c'est ça ici qui est décrit dans le Nouveau Testament qui est nommé comme orgueilleux. Et donc, on pourrait dire que c'est l'état de quelqu'un dont l'orgueil a complètement cautérisé sa conscience. Cautérisé, c'est-à-dire marqué au fer rouge. Quand on marque un animal au fer rouge, les nerfs sensitifs qui ont été brûlés ne sentent plus rien. On peut prendre un pic et piquer à cet endroit qui a été brûlé puis il ne sent plus rien. Parce que les terminaisons sensitives ont été brûlées. Et donc, c'est la même chose spirituellement. On peut arriver à un point où est-ce que par orgueil, on est plus sensible à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et le manque de pardon nous amène à cet endroit-là. Donc, on parle de quelque chose d'une importance fondamentale. Imaginez-vous quand on arrive au point d'avoir un cœur insensible, oui, envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Et c'est pour ça que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un manque de pardon, c'est un cœur malade, un cœur qui est devenu dans un endroit très dangereux et destructeur. Donc, on voit à quel point pardonner de tout notre cœur est de grande et de première importance pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on va y vouer ce message en considérant trois éléments essentiels qui nous permettent de pardonner de tout notre cœur. Ça vous tente-tu?
Ouais.
Let's go! Première chose, comprendre pourquoi il faut pardonner de tout notre cœur. Pourquoi? Le pourquoi des choses, c'est important. D'ailleurs, dans les Proverbes aussi, hein, ça parle de la connaissance, c'est le quoi. Ça parle de la sagesse, c'est le comment. Puis l'intelligence, c'est le pourquoi. Et donc, le pourquoi. Pourquoi on devrait pardonner de tout notre cœur? Dans le fond, c'est plus facile des fois juste à moitié, non? On va voir pourquoi. On a déjà souligné, là, avec le passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, que le pardon est un facteur déterminant dans la guerre spirituelle pour donner accès à Satan ou, tu sais, carrément bloquer le flot de la grâce de Dieu, créer des forteresses dans notre vie. Mais pour être plus précis, j'aimerais vous donner des raisons précises pour lesquelles on devrait pardonner. D'abord, vous savez que le Seigneur l'exige. C'est un commandement. Et si vous ne croyez pas, ça nous dit dans... Puis j'aurais pu aussi vous citer Éphésiens 4, là, mais dans Colossiens 3:13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ben peut-être, si ça vous tente, pardonnez-le. » Non, c'est un ordre, c'est impératif. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça répète, ça dit « Pardonnez-vous réciproquement », puis ensuite ça reprend, puis ça dit « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » Il y a un emphase. On doit exercer le pardon. Et notre relation avec Dieu est directement reliée à celle avec autrui. Parce que c'est pas possible d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ah, moi j'ai une bonne relation avec Dieu, mais je pardonne pas mon prochain, j'ai pas une bonne relation avec l'autre. Non, quand on a une bonne relation avec Dieu, ça va se refléter dans notre relation avec autrui. Puis encore là, c'est aussi pour moi qui l'invente. Écoutez ce que Jean nous dit dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est clair. Dieu veut que nous apprenions à être en relation avec autrui de la même façon, ou si vous voulez, en réponse, en lien véridique de notre relation avec lui. Sinon, on est des hypocrites. On n'est pas mieux que les pharisiens. Donc, c'est la première raison, parce que Dieu l'exige. Deuxième raison, parce que c'est essentiel à notre liberté. Dans la parabole qu'on a lue dans Matthieu, quand que Pierre pose la question avant la parabole, il dit, il suggère, est-ce qu'on devrait pardonner cette fois? Puis il dit, non, 70 fois cette fois. Ici, c'est pas que le Seigneur a dit, OK, compte, puis quand tu es rendu à 78, paf! Ah, là, je te pardonne plus, la guerre est déclarée. Ah! T'as passé le point de non-retour. Pensez-vous que ça serait consistant avec ce que la Bible enseigne? Non, parce que, évidemment, c'est une figure de style qui exprime ou qui communique que nous devons toujours pardonner. On ne devrait pas mettre une limite à notre pardon. Car Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de l'amertume ou enchaîné à notre passé. Enfin, c'est ça, quand on manque de pardon, on devient esclave. Et souvent, des gens ils tirent le passé comme un boulet de canon parce qu'ils n'ont pas pardonné. Des choses très atroces, là. Des fois, c'est innommable même ce que les gens ont pu vivre. Ce n'est pas pour diminuer l'offense. Mais c'est nous qui devenons esclaves. On perd notre liberté. Donc, c'est essentiel pour notre liberté de pardonner. C'est la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle on devrait pardonner, parce que notre propre dette de péché est énorme. Et là, je vous réfère à une autre parabole. C'est pas une parabole, excusez, c'est une histoire où est-ce que Jésus est en visite chez un pharisien du nom de Simon. Et lui est là, puis il l'accueille, tout ça, selon les coutumes de l'époque. Et une femme rentre comme ça, c'est scandaleux. Elle rentre, elle s'en va aux pieds de Jésus, puis elle pleure, elle loin ses pieds, elle les essuie avec ses larmes et ses cheveux. Et le pharisien est tout offensé. Et Jésus le reprend, dit, « Ouais, toi, elle dit, t'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Bon, puis on va pas rentrer dans tous les détails de cette parabole-là pour rester concentré, mais la différence qui est amenée dans ce texte-là entre Simon et cette femme, cette femme pécheresse, cette gomère, on pourrait dire, parce que c'était une prostituée. C'est pas pour montrer comme la différence entre un grand pécheur, une grande pécheresse, puis un petit pécheur. Non, c'est plutôt la différence entre une conscience endurcie, grandement endurcie, puis une conscience sensible. C'est ça, là, parce que quoi, devant Dieu, là, les deux sont tout autant pécheurs. Les deux ont besoin de la justice de Christ, d'être lavé, je veux dire, ils sont dans le même besoin. Là. Ah, peut-être pas le même parcours, il y en a une que c'est peut-être plus spectaculaire que l'autre, mais pensez-vous que Dieu, qui voit les cœurs, qui voit l'hypocrisie de cet homme, qui voit toute la malice dans son cœur, que ça y pue pas au nez, alors que nous on dit, hey, cette madame-là est donc bien pas fine. Il faut faire attention, des fois on juge selon ce que nous on voit avec nos yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et donc, c'est vraiment la différence entre deux consciences. Une qui est aiguisée, sensible, éveillée à la gravité de son péché. Et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et quand Jésus parle ici de pardon, c'est un puissant rappel que notre justice propre est un endurcissement grave, une minimisation de notre péché. Mes amis, quand on est rendu dans le point de notre vie qu'on trouve le péché des autres, donc grave, puis qu'on a de la facilité à excuser le nôtre, on est en péril spirituel. C'est un signal d'alarme. Et c'est dangereux parce qu'on se retrouve comme Simon. Puis on regarde une personne comme cette femme, puis on la méprise dans notre cœur. Puis on oublie complètement c'est quoi l'essentiel. Parce qu'on dit, ah, ce péché-là, c'est grave. Mais on ne voit pas que le péché d'avoir une conscience endurcie face au Dieu trois fois saint qui s'adresse à nous dans son amour, qui vient visiter notre maison, puis qu'on n'en fait même pas de cas, puis nous, on trouve ça normal. Voyez-vous? Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est grave. Minimiser notre péché, maximiser celui des autres, d'où l'importance de la conviction du Saint-Esprit, d'être sensible à l'Esprit. Quand on lit la parole, est-ce qu'on fait juste la lire ou on est ouvert à ce que Dieu va nous dire à nos cœurs pour nous révéler la réalité de nos vies puis de nos cœurs? Parce que quoi que ce soit de la justice propre ou de la justice sale, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Il n'y en a pas une de meilleure que l'autre. La seule justice qui plaît à Dieu, c'est la justice de Christ. Donc, il faut être conscient sous la conviction que on a une dette de péché envers Dieu et que c'est ça qui doit nous donner l'importance du pardon, parce que notre dette de péché est énorme, que ça soit évident aux yeux des hommes ou que ça ne le soit pas. Et si on associe à cette conscience sensible face au péché, et je dirais surtout ceux qui sont acceptés dans les milieux chrétiens, dans les milieux sociaux dans lesquels on est, plus on est conscient de ça, plus on va avoir de l'empathie, de la propension à aimer Dieu et notre prochain. Parce qu'on va être tellement content que Dieu, comme Gomère, il donne de la valeur à quelqu'un comme nous, puis on va être tellement conscient que nous, on n'est pas mieux que l'autre, qu'on va être capable d'aimer. Voyez-vous, ça va tout changer. Comme Jésus le dit, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Mais à celui qui pardonne peu, on aime peu. Et vraiment, c'est l'idée de conscience de comment on a été pardonné. La quatrième raison, c'est mon plus long point. C'est vraiment le cœur du message, là. Parce que je veux vraiment qu'on comprenne pourquoi c'est important de pardonner. Quatrième raison pour laquelle c'est important, parce que c'est impossible de payer notre dette envers Dieu. OK? Et bon, dans la parabole, c'est drôle pareil, parce que quand que on apprend la première dette, c'est une dette impossible, c'est une dette de vie, OK? Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, impatient, je vais te payer tout. Je dirais que c'est plus qu'être optimiste, c'est complètement irréaliste. Tu sais, c'est comme, tu dois $1 milliard. Ah, je vais te payer tout. Je veux dire, dans une vie, là, à 60, même 100 000 par année, là, on peut pas, là, dans une vie, payer ça, là, puis avec intérêt, puis tout ça. Là, les chiffres que j'ai dit, c'est pas nécessairement les bons, mais l'idée que c'est les 1000 deniers, là, c'est une dette impayable. Le seul espoir que cet homme avait, c'est la miséricorde de son maître. La miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde? C'est sortir de sa condition misérable. Pensez, miséricorde, c'est pas compliqué, c'est quand Dieu nous prend puis nous sort de notre condition misérable. Et c'est important que ça, c'est en lien direct, il y a un lien, comme je le soulignais aussi ce matin, entre comment le monsieur a réagi, celui avec la dette impayable, comment il a réagi après être pardonné versus après ça, comment il a réagi avec celui qui devait quelque chose, à peu près 3 semaines de salaire. C'était pas rien, là. C'est pas qu'il devait 10 piastres, là. Il devait quand même une somme importante, mais c'était rien à comparer. Maintenant, on redonne aux autres ce qu'on a reçu de la main de Dieu. Notre frère, il a prié ça, puis il est venu prier pour l'offrande, puis il a prié ça aussi. C'était un peu aussi une chose qui est revenue ce matin. C'est vrai dans le domaine financier, c'est vrai dans le domaine spirituel, dans le domaine du cœur. Mais si on prend pour acquis, si on oublie la grâce de Dieu que nous avons reçue, on va agir selon la justice. On va donner aux gens ce qu'ils méritent. Parce qu'on a oublié que nous, on n'a eu pas ce qu'on méritait. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On refuse aux gens de leur donner la miséricorde. La miséricorde, c'est pas leur donner ce qu'ils méritent. OK? On va pas leur donner la miséricorde d'accepter de souffrir pour leur bien et leur péché, pour les aider à sortir de leur misère. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous amener encore plus loin. C'est-à-dire qu'on ne leur donnera pas cette grâce, non seulement de ne pas leur donner le mal, mais d'être proactif et leur donner le bien qu'ils ne mériteraient même pas. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été conscient de ce qu'on a reçu. À la lumière de ça, écoutez ce verset-là des Écritures, Jacques 1:22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » mettre ces deux passages en parallèle, la parabole, puis Jean, ça nous aide, ça nous donne une nouvelle compréhension, une compréhension fraîche de ce que ça veut dire être un auditeur oublieux. Si je suis dur envers les autres, puis je te dis, c'est la justice qui mérite parce que c'est ça, c'est quoi? Il y a un sens de la justice qui est vrai qu'on doit avoir. Mais est-ce que j'ai oublié comment, moi, si Dieu me donnait la justice, je serais un cadavre, ça fait longtemps? Est-ce que j'ai oublié ça? Puis est-ce que j'ai oublié comment, moi, demain, je demande à Dieu, hey, miséricorde envers moi, j'ai encore. Je me suis encore mis les pieds dans le plat. Le problème, souvent, c'est pas parce que la personne, elle mérite ou elle mérite pas, c'est qu'on oublie, nous autres, comment qu'on se tient devant Dieu. Je vous dis, tout part de comment qu'on est devant Dieu, comment qu'on voit notre état devant Dieu. On est des auditeurs oublieux. On oublie qu'on a été gracié énormément. Puis on arrive pour pardonner à l'autre, on oublie qu'on a été pardonné en Jésus-Christ. Pourtant, c'est la mesure. C'est la mesure dans notre texte, c'est la mesure dans ce que j'ai lu aussi. Comme vous avez été pardonné, pardonnez de même. Et vous avez remarqué, c'est vrai ici dans Matthieu, c'est vrai dans Colossiens, c'est vrai dans Éphésiens, c'est constant. Quand ça parle de pardonner, la mesure, c'est le pardon qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, on aurait tout le temps à pardonner parce qu'on a toujours une raison, parce qu'on a toujours plus été pardonné que nous, ce qu'on a à pardonner. Ça m'amène, puis ça en passant, si j'ai ça vraiment, ça va toujours se refléter dans mes relations avec les autres. Cinquième raison pour laquelle je devrais pardonner, parce que je ne veux pas laisser l'avantage à Satan. La suite des événements de notre histoire là, avec le gars qui ne voulait pas pardonner, puis tout ça, savez-vous quoi? C'était lui le plus misérable. C'est lui qui a été livré au bourreau. Et ça révèle que celui qui se retrouve dans la pire situation, c'est celui qui n'a pas pardonné la dette, qui a refusé de pardonner comme il a été pardonné. Et l'expression ici, au verset 34, pour « livra au bourreau », c'est la même expression que « tourmenté » dans Marc 5, 7, avec le démon qui tourmentait cet homme. OK? Et je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a beaucoup de commentaires qui disent dans le même sens, mais ici, dans le fond, ce que Jésus dit, et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est une parabole ici, c'est pas une histoire vraie, c'est une parabole que Jésus lui donne. Une histoire parallèle à une vérité qu'il est en train d'enseigner. Et donc, l'idée de livrer au bourreau, c'est un avertissement ici par Jésus, par l'image qu'il utilise, que si on ne pardonne pas de tout notre cœur, on va souffrir toutes sortes de tourments spirituels. Et là, prenez le temps de penser à ça. On pourrait faire le tour de la salle ici pour nous, nos exemples, mais peut-être qu'on connaît aussi des gens qui sont misérables, peut-être depuis des années, qui sont tourmentés, qui sont anxieux, qui ont des problèmes physiques, des problèmes spirituels, puis des fois, tu sais, ce qu'on appelle santé mentale, souvent, là, on va à la base, là, c'est quelque chose de très grave, un traumatisme ou quelque chose, mais qui n'a jamais été pardonné. La personne est livrée au bourreau. Elle est tourmentée. Moi, je vous dis, comme pasteur, là, je parle à beaucoup de gens, puis je vois toutes sortes de situations. C'est incroyable. C'est quasiment le dénominateur commun. Tu sais, je veux pas généraliser à outrance, là, mais c'est tellement commun. Là. Puis encore là, c'est pas pour diminuer ce que la personne a vécu. Il y a des gens qui ont vécu des affaires traumatisantes. Là. Mais quand on pardonne pas, on est tourmenté. Parce que ça nous prend dans le cœur, ça nous vire tout à l'envers, ça nous gruche. Je connais des gens qui... on le voit physiquement comment ça les a affectés, on le voit aussi relationnellement. Ils sont pas capables de parler à du monde, ils sont pas capables, puis ça devient systématique après ça. Ils sont plus capables de pardonner du monde, ou ils en veulent à certaines personnes. Sont misérables parce qu'ils sont tourmentés. Autrement dit, ne pas pardonner de tout notre cœur, ça l'ouvre la porte, ça donne accès à Satan pour faire toutes sortes de destructions dans notre vie. Puis on peut dire, idem. Pour la colère. Parce qu'on est dit aussi dans Éphésiens 4, 27. Puis on pourrait prendre aussi d'autres émotions fortes, là. Mais là, on parle du pardon après-midi. Ça permet à l'ennemi de nous influencer, de nous attaquer. Puis comme je vous dis, on connaît tous des personnes qui sont de même et probablement aussi, peut-être que nous en sommes une de ceux-là. Donc ça, c'est les raisons. Et pour la fin du message, il me reste deux points beaucoup plus brefs. D'abord, le deuxième point, c'est comprendre la réalité. de pardonner de tout son cœur. Là, on a vu pourquoi. Maintenant, c'est quoi cette réalité-là? Autrement dit, OK, je veux pas être la réalité dans le sens, c'est quoi le real deal? C'est quoi vraiment, là, de pardonner de tout son cœur? On veut pas juste avoir, OK, ça ressemble à ça, une demi-mesure. Non, non, je veux le produit authentique. C'est quoi, là, réellement pardonner de tout notre cœur de façon véridique? OK, c'est ça mon deuxième point. Il était là, on va dire, là, mais... C'est quoi que c'est... Ça signifie simplement, là, pardonner de tout notre cœur, ça veut dire d'être transparent avec Dieu puis avec nous-mêmes sur la souffrance, puis là, on pourrait dire émotive, mentale, parce que des fois, avec la violence psychologique, des fois, on peut, tu sais, on s'est fait dire qu'on était bon à rien pendant tellement d'années ou tout ça, mais ben, maintenant, on le croit, fait que, tu sais, on a une souffrance, OK? La souffrance à tous les niveaux, là, donc d'être honnête avec Dieu puis avec nous-mêmes sur la souffrance des blessures qui nous font mal, et qu'on n'est pas capable de pardonner. Faut être honnête là-dessus. Il y a des affaires que c'est juste trop dur, c'est trop fort, puis on n'est pas capable. Donc, on a besoin de parler honnêtement à Dieu. Avec, là, je vous donne un peu une idée de ce que ça peut avoir là. Seigneur, je choisis. OK? Puis il y a vraiment un choix de Dieu. Je choisis de pardonner. Puis là, ça peut être telle personne, telle situation qui est arrivée. Je choisis de pardonner cette personne-là pour telle affaire qu'il a faite. OK? Puis là, nommer, là, tu sais, être spécifique. Si on veut, si on veut une libération qui est vraie, il faut être vrai avec ce qui nous fait mal. Fait que cette personne-là, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, OK? De l'amener devant Dieu, juste honnêtement. OK? Donc, je choisis de pardonner cette personne pour cette chose-là parce que ça m'a fait ça aussi, être honnête là-dessus. Ça m'a fait sentir comme un rien. Ça m'a fait sentir abandonné. Ça m'a fait de la colère. OK? Soyons honnêtes. Je veux dire, de toute façon, si on n'est pas honnête avec Dieu, lui, il sait de toute façon. Mais c'est ça, la réalité de pardonner. C'est d'être vrai. Je prends... Tu sais, vous n'êtes pas obligé. C'est pas des mots, là. C'est comme une prière de repentance. C'est pas qu'il faut dire tel mot, là. Mais c'est que ça vous donne un peu l'idée. Tu sais, être précis sur la personne, ce qu'elle a fait, puis ce que ça nous a fait aussi. C'est important, ça, parce que souvent, c'est ça aussi qui nous gruge. Donc, je vous encourage à user de ce genre d'honnêteté devant le Seigneur par rapport à toutes ces blessures qui peuvent encore vous faire mal. En passant, si quand vous le nommez, si quand vous pensez à cette personne-là, ça fait encore mal, c'est parce que c'est pas guéri. Et Dieu peut le guérir. Et des fois, ça peut prendre du temps, il faut laisser. Mais, tu sais, puis il ne faut pas s'énerver. Hey, Seigneur, je t'en ai parlé, puis ça fait encore mal. OK. Tu sais, une blessure, là, des fois, il faut laisser le temps à la guérison. Mais au moins, on est allé là-dessus devant le Seigneur. Donc, c'est ça. Et je dirais là-dessus, Dieu doit être l'initiateur. Je ne parle pas ici de faire une introspection, puis une espèce de psychanalyse. Non, non. Sonde-moi, oh Dieu. T'sais, révèle-moi les choses. Des fois, on ne sait même pas, puis on pense, hein, j'avais pas pensé à ça, puis ça me dérange encore. Pis des fois, ça peut remonter à loin, là, quelqu'un qui. C'est pas l'idée là, d'aller dans notre passé, puis essayer de. Non, c'est Dieu révèle à mon cœur. Prions dans ce sens-là, Daniel 2:22, Dieu révèle ce qui est caché. Et dans ce temps-là, quand Dieu initie comme ça, il va restaurer, puis ça va être réel, ça va être profond. Non, c'est pas évident, mais c'est la seule façon de réellement et complètement guérir de la souffrance et de la douleur qu'on a portée des fois pendant des années, avec des choses qui légitimement nous font mal. Autrement dit, on n'est pas prêt à porter les regards vers ce qui est en avant, tant qu'avec le Seigneur, il ne nous a pas aider à faire la croix pour oublier ce qui est derrière. Parce que c'est ça, avec le pardon, c'est dire, OK, Seigneur, il y a des affaires qu'on ne pourra jamais oublier, on va en parler dans un instant, mais je ne veux pas revenir là-dessus. C'est pardonner, je ne veux plus laisser ça voler, la joie de mon cœur, la paix du Seigneur. Comprenez-vous, je ne veux plus que ça ait une emprise sur moi. Parce que c'est ça, on est sous l'emprise de ces blessures-là quand on ne l'a pas pardonné. Et c'est important de comprendre que toute la question de pardonner de tout notre cœur, c'est pas tant d'abord là, une question horizontale entre nous et les hommes. C'est d'abord entre nous et Dieu. Parce que, je veux dire, je peux avec la personne, ah, tout va bien, pis tout, mais dans mon cœur, avoir du ressentiment, puis ça, Dieu le voit, puis ça donne toutes sortes de choses. C'est d'abord entre nous puis Dieu. C'est à lui qu'il faut d'abord aller avec ces choses-là. Puis ça n'exclut pas la réconciliation. En fait, ça précède la réconciliation. Parce que oui, Jésus a dit, si tu t'en vas prier, puis là, tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande, puis tout ça. OK, absolument. Puis la réconciliation est très importante. Mais imaginez-vous, si je veux aller être réconcilié, puis dans mon cœur, j'ai même pas pardonné dans mon cœur, ça ne marchera pas, là. J'y vois librement, je suis libéré quand je pardonne. Là, je vais pouvoir aller de l'avant avec la réconciliation efficace, véridique, qui va porter du fruit. Puis en passant aussi, autant que c'est important la réconciliation et tout ça, mais tu sais, le pardon et tout ça devant Dieu, je peux pas dépendre d'un autre pour la liberté. Parce que mettons que je veux être réconcilié avec quelqu'un et il ne veut rien savoir, alors je serais mal pris. Mais si je pardonne dans mon cœur devant Dieu, même si avec la personne, tu sais, ça dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais même si ça ne serait pas possible, bon, moi je suis libre dans mon cœur. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça que c'est important avec Dieu d'abord. Donc, après avoir pardonné de tout notre cœur, on peut aller voir la personne et là, Saint-Esprit va diriger, puis il va bénir parce que, justement, on va avoir cette disposition avec l'autre personne. Tout ça nous aide à comprendre que pardonner de tout notre cœur, c'est pour notre bien, parce que ça nous garde de toutes sortes de pièges. Parce que pensez-y, si je refuse de pardonner de tout mon cœur, je deviens misérable, je nuis aux autres, je deviens une paire d'achèvement, je ne suis pas en liberté, puis je m'accroche à la souffrance, je m'accroche à d'autres personnes, je deviens l'esclave de cette personne-là. Pardonner, c'est la liberté. C'est la liberté d'aimer, c'est la liberté d'accueillir l'autre. C'est merveilleux. Troisième point, comprendre. OK, donc il fallait savoir c'était pourquoi. Là, maintenant, c'est quoi la réalité? C'est quoi réellement pardonner de tout notre cœur? Et finalement, comprendre ce qu'est et n'est pas, ce que n'est pas le pardon de tout notre cœur. Et c'est ma conclusion. C'est quand même assez simple là, comme point. D'abord, il faut comprendre que le pardon, c'est pas d'oublier. Les gens vont dire « Ah, t'as pardonné, t'as oublié. » Premièrement, Dieu, quand il dit « Je pardonne », Dieu ne peut pas oublier. Il veut dire « Dieu, c'est toute chose. » Puis il y a des choses, comme je vous dis, c'est tellement traumatique et profond. Il y a des affaires qu'on peut juste pas oublier. Puis des fois, tu revois la personne, ça te fait tout repenser à ça. Non, le pardon, puis c'est ça aussi avec Dieu, c'est de ne pas le remettre dans la relation. C'est pas le remettre entre nous deux. Comme Dieu, nos péchés, là, ça dit, il s'est jeté dans le fond de la mer, puis ça, puis quoi, c'est que Dieu les remet pas entre nous autres. C'est payé, puis c'est pas parce que Dieu a oublié, mais Dieu volontairement ne nous les remet pas sur notre compte parce qu'on est pardonné, mais c'est la même chose. Puis je me rappelle, j'avais déjà dit ça aussi, que si on a une chicane avec quelqu'un, puis que là, on arrive avec une série d'affaires déjà, là, « Hey, t'as rappelé tout, t'as fait ça, puis là, on a toute la belle liste de condamnations pour l'autre, on est en train d'y proclamer haut et fort, je ne t'ai pas pardonné. » On devrait rougir, puis dire « Wow! » Mon état spirituel va pas bien. Ça change un peu la dynamique d'une chicane, n'est-ce pas? Écoutez, à ce sujet-là, Proverbe 17:9. Voyons, il est où? Proverbe 17. Point numéro 3, Jérémie. Hein, je ne l'ai pas. Ah oui, non, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. Hein, je l'avais écrit. Ça, je disais à Sébastien. Hein? Merci, frère, t'avais le bon. Hey, wow, le Seigneur t'a dirigé. C'est ça, donc c'est pas oublié. Ensuite, pardonner, c'est pas tolérer le péché non plus. Parce que ça encore là, Dieu fait pas ça. Dieu tolère pas le péché. OK? Donc, pardonner de tout notre cœur, ça ne veut pas dire que des fois, là, pour le bien de tous, on a à prendre position, puis tu sais, de reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en assurant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas. Mais pardonner, ça dénonce le péché, oui, mais aussi ça va mettre un frein au cycle du péché. À l'abus, puis tout ça, que ça peut continuer parce que Comme je dis, avec la liberté que ça amène dans notre cœur par rapport au péché qu'il y a eu, c'est pas qu'on tolère, mais c'est qu'on demeure pas dessus, on reste pas fixé sur ce péché-là. Parce que rappelez-vous, on a vu, on dépend de ce sur quoi on a le focus. Si je regarde à quelqu'un, si je regarde à son péché, je deviens esclave de cette personne-là. Puis là, je deviens misérable. Aussi, pardonner, c'est pas de rechercher revanche. Et ça, là-dessus, c'est clair. Vous connaissez Romains 12, 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est pour ça que c'est pas évident de pardonner de tout notre cœur si on veut que notre justice soit rendue. Dieu veut qu'on y fasse confiance. Le côté de Dieu, c'est dit « À moi la vengeance, à moi... » Autrement dit, je m'en occupe. Dieu va s'en occuper à sa façon, puis en son temps. Pensez au psaume imprécatoire, là. Il demandait à Dieu « Hey, Dieu fait justice, ça n'a pas de bon sens, puis... » Mais il ne prenait pas ça entre leurs mains. Donc, ce n'est pas se venger de moi. On peut demander à Dieu qu'il fasse justice, mais on ne prend pas ça entre nos mains. Et là, là-dessus, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Certaines personnes, quand vient le domaine du pardon, des offenses, ils sont très interventionnistes. Connaissez-vous quand on parle de politique internationale? « Ah, les Américains sont interventionnistes. » OK? Interventionnistes, c'est-à-dire on s'arrange là pour s'impliquer, pour que ça change. Il y a un problème, pour qu'on s'en occupe. Et ça peut être avec un sens de justice. Ben voyons, là, ça ne marche pas, mais attention, ça peut cacher de l'orgueil de vouloir prendre la place de Dieu et de l'incrédulité de penser que Dieu n'est pas capable de s'en occuper. Il faut faire très attention, des fois, sous les apparences d'un sens de justice, on peut être en train de pécher gravement contre Dieu et contre les autres aussi. Parce qu'en passant, si on essaie de se manger et de régler la situation, pensez-vous qu'on va faire une meilleure job que Dieu? Il faut faire attention. On ne veut pas être des interventionnistes là où Dieu nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » La preuve, c'est qu'on n'est pas libre par rapport à la personne qui a fait l'offense, mais on devient leur esclave. Si on essaie d'intervenir et de tout changer, on ne règle rien, on fait juste remplir les choses, puis tout le monde en est juste plus misérable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon du cœur. C'est une espèce d'alternative. Donc, il ne faut pas prendre les choses entre nos mains. Faut les laisser dans les mains du Seigneur. Puis là-dessus, pas juste nos mains, notre bouche aussi. Un autre proverbe. Celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Savez-vous, on regrette très peu souvent d'avoir gardé le silence. Mais comment qu'on regrette souvent d'avoir parlé? Des fois, on ne se venge pas nécessairement avec des coups. En fait, c'est rare. Moi, j'ai pas vu ça souvent. Là. Mais c'est arrivé à Saint-Casimir, j'ai entendu ça l'autre jour. Mais avec des mots, on se venge des fois. Des fois, nos mots, ils cognent. C'est quoi le pardon? C'est résoudre de vivre avec les conséquences du péché d'autrui. Hey, ça sonne tellement compromis. Là. Ça sonne tellement pas correct. Là. Je répète, c'est quoi le pardonner de tout notre cœur? C'est résoudre de vivre avec les conséquences du péché d'autrui. Puis là, dans le cœur, il y a peut-être une pensée qui m'a dit « Ouais, mais c'est pas juste! » Non, c'est pas juste. Mais la vie n'est pas juste. On vit dans un monde tout brisé, là. Et on doit nous résoudre. De toute façon, on prend prendre la résolution dans l'humilité et la foi que c'est la voie à prendre. Le vrai choix, c'est est-ce que je veux être esclave de l'amertume ou libéré par le pardon? Parce que le péché a des conséquences. OK? Quelqu'un a fait du mal, quand tu pardonnes, tu dis « OK, je ne vais pas passer ma vie à penser à toutes ces conséquences-là. » Parce que c'est ça qui arrive quand on devient... On dit, ben non, ça n'a même pas de bon sens, puis c'est des vraies conséquences, puis c'est vrai que c'est pas beau, tout ça, qu'on aurait le goût de se venger, puis tout ça. C'est là toute la difficulté du pardon. C'est de laisser Dieu agir, puis nous, de laisser Dieu s'en occuper. Puis comme je l'ai dit, c'est pas excuser le péché, puis ça, je ne vais pas tout refaire le message. C'est pas une passivité que je parle ici. Je parle ici dans notre cœur de ne pas se laisser ronger par ça. Vous connaîtrez la vérité, Jésus est la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand on vit dans un manque de pardon, on vit dans le mensonge. dans le mensonge que nous, on peut régler ça, dans le mensonge que nous, on peut changer des cœurs, dans toutes sortes de mensonges. Pensez ça la prochaine fois que vous aurez de la misère à pardonner. Je veux-tu vivre dans le mensonge ou dans la vérité? Méchant sujet pareil, là. Pensez-y, là. C'est pas du superficiel qu'on touche après-midi, là. Résoudre de vivre avec les conséquences du péché d'autrui. Sans l'excuser, mais dire, Dieu, je vais laisser ça entre tes mains. Puis je vais pas laisser ça m'abattre, me détruire, venir entre moi puis toi, puis je vais te faire confiance que toi, tu es capable de t'en occuper. Ça, c'est de l'humilité, puis c'est de la foi. Voici avec quoi je termine. Je l'ai dit tantôt, là, je ne veux pas minimiser. Peut-être qu'il y en a ici qui sont dans une grande souffrance, peut-être même une agonie de douleur, parce que avec des choses que quelqu'un vous a fait subir. Et vous pouvez trouver toutes sortes de raisons pour continuer à avoir de l'amertume et être choqué par rapport à ça. Mais la question par rapport à pardonner de tout notre cœur, c'est pas une question d'abord de qui a raison ou qui a tort. Mais c'est la question d'être, est-ce que je suis offensé? Est-ce que j'ai été blessé ou non? Parce que la justice, il n'y en a pas. Puis si je veux la justice, je ne serai jamais heureux. Mais si avec mes blessures, si avec ce que ça m'a fait, je libère ça dans les mains de la grâce de Dieu, là, Dieu va commencer à travailler. Parce que c'est là que je m'humilie. Je dis, OK, ça me fait tellement mal, ça me fait souffrir, mais je vais arrêter de me battre. Je veux te laisser ça entre les mains. Et Dieu va faire grâce à quelqu'un qui s'humilie comme ça devant lui. La liberté, la croissance de cette Église dépend directement du fait que chacun, on pardonne de tout notre cœur. Et si on ne pardonne pas de tout notre cœur, la voie d'autodestruction est inévitable. Donc vraiment, puis là, je ne parle pas juste Église, ensemble Église, personne individuellement, les familles, puis tout ça, c'est toute une dynamique. Et donc, c'est tellement important, parce qu'on l'a vu, ça donne accès à Satan, mais aussi le pardon de tout notre cœur libère les écluses des cieux pour que Dieu fasse des choses extraordinaires au milieu de nous. C'est super, super important. Ah, Seigneur, merci. On a touché à des choses tellement fondamentales et grandes, même que certaines peut-être nous heurtent. On dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas laisser passer ça. Et peut-être que des gens, ça fait des années qu'ils sont pris dans un piège comme ça, émotionnel, mental, relationnel. Mais Seigneur, qu'on médite simplement sur ta parole. On l'a vu dans la parabole, mais aussi dans Colossiens, c'est aussi dans Éphésiens, comme on a été pardonné en Christ. On doit aussi pardonner notre prochain, se pardonner les uns les autres. Seigneur, s'il avait fallu que tu attendes que ça ait du bon sens pour nous pardonner et nous faire grâce, on serait tous en enfer. Il n'y a personne qui aurait trouvé ta grâce. Alors, Seigneur, qu'on soit pas des auditeurs oubliés, qu'on n'oublie pas qu'on s'est fait gracier d'une dette impayable. Et Seigneur, qu'on montre cette grâce aussi les uns envers les autres. Et qu'on te fasse confiance, Seigneur, tu vas t'occuper des injustices. Tu vas t'occuper du mensonge, de la tromperie, des profiteurs. Parce qu'il y en a. Mais tu les connais. Et tu sais mieux t'en occuper que nous autres. Et toi-même, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, notre confiance est en toi. Dirige le temps de réponse, Seigneur. On veut être vrai devant toi, Seigneur. Tu connais nos vies, nos passés. Ah, libère-nous, Seigneur, de ces chaînes qui peuvent nous prendre. Et qu'on soit libre d'aimer, libre de se réjouir en toi. Qu'on laisse pas Satan, l'amertume et tout ça nous voler les richesses incompréhensibles de Christ. On prie toutes ces choses en son nom, merveilleux. Jésus, notre Sauveur. Amen.